Nous vivons dans des tentes. Nous dormons à même le sol. Voilà l'hiver qui arrive. Le froid se fait sentir.
L'an dernier, les migrants s'enregistraient dès leur arrivée sur l'île et partaient très vite pour suivre leur voyage. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir et nous avons beaucoup de gens qui ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus aucun rêve.
Moi, je suis Syrien. Cela fait 2 mois que je suis ici. D'autres sont arrivés il y a 4, 5, 6 ou même 7 mois. Ils sont tous Syriens, eux aussi, et ils attendent toujours.
Le petit corps sans vie d'un enfant de 3 ans échoué sur une plage turque le 2 septembre 2015. La photo d'Aylan fait le tour du monde et frappe les consciences. Elle incarne le drame des réfugiés syriens. Dans la semaine qui suit, l'Allemagne décide d'assouplir ses règles d'accueil et la France accepte la proposition de la Commission européenne d'instaurer des quotas de répartition des réfugiés au sein de l'Union. Mais l'Europe est partagée entre compassion et peur de l'invasion. Les pays de la route des Balkans ferment leurs frontières. La Hongrie et la Slovénie, principaux pays d'entrée de la zone Schengen, érigent des clôtures de barbelés. Pour dissuader les migrants de prendre la mer pour rejoindre la Grèce, l'année dernière, 857 000 personnes ont accompli cette dangereuse traversée. Un accord est conclu avec Ankara. Les migrants arrivant sur les îles grecques seront désormais renvoyés en Turquie, pays considéré comme sûr. L'accord entre en vigueur le 20 mars. Il est soumis à des contreparties, notamment la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. 7 mois plus tard, où en est-on? Un rapport du Sénat français qualifie l'accord de « réponse fragile, ambiguë et partielle » à la question migratoire. Et sur l'île grecque de Lesbos, c'est l'attente, la très longue attente pour les réfugiés qui s'entassent sous des tentes dans des conditions très précaires. Lesbos, terre de détresse, c'est un reportage signé Marie-Pierre Véraud avec Yacine Bouzard à la réalisation. Les invités de ce magazine, Eve Chachahani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée dans le droit des étrangers et vous êtes récemment allée sur l'île grecque de Chios pour le compte du Gisti, association qui défend les droits des étrangers. Vous nous parlerez tout à l'heure de cette mission. Et à côté de vous, le chercheur Mathieu Ichou de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-dirigé avec Chris Beauchemin la rédaction du livre « Au-delà de la crise des migrants, décentrer le regard », un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Cartala. Je vous ferai réagir tout à l'heure au reportage de Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Aurélie.
Vous rentrez de l'île de Lesbos. Il y a actuellement un peu plus de 6000 réfugiés sur l'île et moitié moins de place pour les accueillir. 7 mois après l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, on peut faire le constat que les camps ne sont pas du tout désengorgés.
Ben non, c'est loin d'être le cas en effet, hein, puisque les traversées n'ont pas cessé depuis la Turquie, même si elles ont été réduites de façon spectaculaire. Hein, et il n'y a plus de renvoi, ou si peu. Quand j'étais allée à Lesbos une première fois dans les tout premiers jours de l'accord, quelques centaines de personnes avaient été expulsées vers la Turquie. Mais depuis, pour éviter de retourner dans ce pays qu'ils ont quitté au péril de leur vie, eh bien, les migrants déposent des demandes d'asile. Et ils attendent. Cette île de Lesbos, qui était une île de transit, est devenue une île de la détention dont on voudrait s'enfuir.
Et votre reportage commence par le témoignage de Nasser. Il a 60 ans. Il est parti d'Izmir cet été à bord d'une embarcation qui a fait naufrage à 7 km des côtes grecques. Et il a fini la traversée à la nage.
Je ne peux pas aller à la mer, moi, je ne peux pas. La mer, elle est juste là, moi, je ne peux pas la voir. Quand je passe sur le bus, je regarde par là. Ça, j'ai toujours ce choc, quand j'ai vu des enfants crier, tu peux rien faire. À 1h du matin, en plein mer, et la mer, elle était agitée. Et moi, grâce à ça, je suis en vie. Tout le monde ici me dit, à ton âge, à mon âge, j'ai nagé jusque-là. J'ai ramené quelqu'un avec moi. Elle dit, tu vois du tout, madame, tu vois du tout ici. Moi, j'ai vu du tout. 3 mois. Il y a des gens ici qui ont 7 mois, 8 mois, 9 mois, ils te racontent. Allez, on attend. Qu'est-ce qu'on doit faire?
À force d'attendre, hein, les gens, ils n'en peuvent plus, ils sont prêts à retenter.
Ils vont dans les camions, et ils sont morts, ouais, ils sont morts. 2-3 personnes, ils sont morts, arrêt de cœur. Parce que le camion, il met le froid, ils sont morts congelés. Si. Ils peuvent, ils font n'importe quoi pour salir de cette île. Ils montent dans le bateau, avec la corde, ils plongent dans la mer, ils montent avec la corde la nuit. Ils font n'importe quoi pour qu'ils arrivent à Athènes. Une fois à Athènes, tout le monde veut aller à Thessalonique. Il y a des gens qui te prennent de l'argent, ils disent que attends ici, ils te donnent ni papiers ni rien du tout. Ils te prennent de l'argent, ils disent que tu veux aller à Athènes, toi, tes fils, voilà, toi et ton copain, par exemple, 3000 euros. Donne-moi 3000 euros, il prend la photo, tu restes dans le café, il revient plus. Ah, il revient plus, ça y est. Il y a des gens qui pleurent, ils ont vendu tous les pauvres, ces bijoux, afin de laisser dans le café planté. Il n'a même pas pour payer le café. Oh, là, c'est des trafiquants qui viennent. Ils trafiquent. Ils prennent des jeunes filles de 14 ans, 16 ans.
C'est-à-dire, ils prennent les jeunes filles et puis en échange.
Des jeunes filles, l'échange, où les gars, là, tu vas, moi, je vais te ramener. Il y a des jeunes filles qui se sont disparues de là. Ils cherchent les toits où est-ce qu'ils sont. Après, ils font ce qu'ils veulent avec eux. Tu sais ce que je veux dire. Genre d'esclavage. À l'époque, nous sommes à l'époque de Christophe Colomb. Tu connais l'histoire de Christophe Colomb, hein, tu connais bien. Quand il prenait les Noirs, il est vendu en Amérique, etc. Alors, c'est pareil ici. Ce sont des salauds. La mafia, c'est la mafia ici. Ils viennent ici, ils traitent avec... Ils savent que ces gens, ils ne peuvent pas sortir de là. Alors, ils ont l'occasion de les abuser d'eux. Moi, je ne peux pas parler trop ici avec des gens. Si on est... je te parle... Parce que tu as peur ici. Ils ont des gens, et celui-là, ils parlent de nous.
Ils sont de quelle nationalité, ceux qui organisent le trafic?
Ils sont des Arabes. Eux, ils sont des Grecs, sont des... Toute nationalité. La mafia vient ici. Mais tu connais pas, toi, le bonhomme. Tu connais l'intermédiaire. Pour voir le patron, tu le connais pas. Il te donne des faux papiers. Et si tu rattrapes la police, tu te mets en prison. Ouais, c'est... Tu as perdu ton argent, et tu vas en prison. Ah. Les gens, ils souffrent ici. Hein. Ils veulent tous sortir de là, tous. Si lui, ils ouvrent la porte une heure, tu viens dans une minute, personne ne sera ici.
Mais là, on peut entrer et sortir du camp.
Ouais, tu peux rentrer. On fait un tour. Allez, viens. La première de ça, c'est la tranquillité. Et les gens sont acquis bien avec nous. Tu demandes ce que tu demandes, tu l'auras.
Et les enfants, là, ils jouent,
non? Ils jouent, les enfants, ils jouent ici. Le matin, ils vont des cours d'anglais, de français, là-bas. Les anciens n'ont pas à parler français, anglais. C'est bien.
Ici, depuis que vous êtes arrivé, vous avez rencontré d'autres personnes, de nouveaux amis?
Ouais, j'ai tous mes amis. Il y a même de la République Dominicana. Il y a des Espagnols ici, l'Afrique centrale, le monde est ici. Là. Tu enlèves l'Europe, il y a 22 pays ici, 22 pays, 22 nations. Tout le monde est ici. Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire.
Que vont-ils devenir? Cette interrogation hante chacun ici. Les réfugiés dans ce camp de Kara Tepe pour les plus vulnérables, non loin du port de Mytilène et de la mer, comme ceux qui s'entassent plus haut à Moria dans des conditions beaucoup plus difficiles. Chaque semaine, une centaine de nouveaux arrivants et quasiment plus personne ne quitte l'île de Lesbos. Les services de l'asile sont débordés et les ONG constatent les dégâts.
Je m'appelle Anna Bano et je suis l'une des psychologues de Médecins du Monde. Je travaille depuis 2013 ici dans le camp de Moria. Il y a une vraie différence dans l'état psychologique des personnes que l'on rencontre aujourd'hui par rapport à celles que l'on voyait l'été dernier. L'an dernier, les migrants s'enregistraient dès leur arrivée sur l'île et partaient très vite pour suivre leur voyage. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir et nous avons beaucoup de gens qui ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus aucun rêve, aucune espérance. Certains ont même des parents déjà installés dans un autre pays européen et ils pensent qu'ils ne les reverront jamais alors qu'ils sont aujourd'hui si proches. Cette perte d'espoir, c'est très grave parce que l'été dernier, ce qui les maintenait debout, ce qui leur permettait de survivre, c'était la foi et l'espoir.
Le centre de Moria, où sont quelques milliers de demandeurs d'asile, sur les hauteurs de Mytilène, à une dizaine de kilomètres du port de Lesbos, un mur d'enceinte blanc qui est entouré de grillages surmontés de barbelés. C'est une ancienne caserne de l'armée transformée en centre pour les réfugiés, des préfabriqués qu'on aperçoit par le grillage, des tentes aussi et des bâches sous lesquelles dorment un certain nombre de demandeurs d'asile par terre. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Une porte grillagée qui est ouverte. C'est ce qui a changé depuis les tout débuts, les tout premiers jours après l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. C'est que les demandeurs d'asile peuvent sortir de ce centre, aller et venir. Ils traversent la route. En face, il y a des petites cahutes.
qui vendent des boissons, des sandwichs, où viennent les ONG, certains demandeurs d'asile aussi. Ils viennent recharger leur téléphone portable et attendre. Dans le bruit des générateurs, ils sont assis là. Ils attendent. Un groupe d'Africains est là et sorti de la... du centre, la police anti-émeute qui vient d'être appelée parce qu'il y avait des tensions entre migrants, comme lors de l'incendie il y a un mois environ. La police anti-émeute a été appelée, là elle repart. Les tensions étaient moins graves cette fois-ci. Et il y a deux, trois groupes de réfugiés qui sont sortis, qui regardent tout ça.
Aujourd'hui, des Érythréens, la communauté érythréenne est allée pour passer l'enregistrement. On les a renvoyés en janvier. Ils sont là depuis plus de 3 mois. Ils patientent. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase cet après-midi. Ils se sont plaints. Ils ont demandé à ce qu'on reproche leur date, ce qui n'a pas été fait. Et vous voyez, c'est l'éternel problème ici. La communauté africaine est carrément lésée. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on nous bloque ici. Ça fait plus de 3 mois. Que des gens attendent de passer une simple interview. Ils arrivent, on les renvoie au 31 janvier, au 31 décembre. Pendant ce temps, comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre ici à l'intérieur? On n'a pas de sécurité. C'est invivable.
Ça fait un mois que vous êtes ici. Vous avez pu vous enregistrer? Comment ça se passe?
Nous ne savons pas... ce qui se passe avec l'administration ou bien les autorités. Soit ils ne veulent pas libérer les Africains en général, soit il y a autre chose, il y a un guet sous rouge. Tous les jours on libère les Blancs.
Et on les envoie où?
On les envoie à Athènes. Ils ont le droit de circuler, de partir, de continuer, mais pas nous. Chaque jour les Syriens s'en vont, ils viennent, ils partent. Mais nous autres, nous sommes mis à l'écart. On ne comprend rien. On ne sait pas. Soit c'est, les Grecs nous disent que c'est l'Union européenne qui décide. L'Union européenne, bon, quand on pose des questions à certains Blancs qui travaillent là, certains non-Grecs qui travaillent là, ils nous disent que c'est les Grecs qui pilotent tout. Bon. Moi, ça fait 4 ans que je suis parti de mon pays.
Vous venez d'où?
Moi, je suis Camerounais. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait la Turquie, j'ai fait au moins 4 pays. C'est comme ça que je me retrouve ici. Bon, si qu'ils nous disent clairement s'ils ne veulent pas de nous, qu'ils nous fassent comprendre, nous allons... Qu'on nous déporte même chez nous, il n'y a pas de problème, mais qu'on ne nous laisse pas en péril. Parce que si vous entrez là à l'intérieur, vous ne verrez aucun flic, aucun militaire. Parce que quand il y a problème comme ça, tous prennent la fuite. Et le camp reste, c'est la loi du plus fort, ça devient la jungle. Peut-être qu'il faut qu'il y ait d'abord mort d'homme ici pour que les gens comprennent la situation que nous vivons. Nous vivons dans des tentes. Nous dormons à même le sol. Voilà l'hiver qui arrive. Le froid se fait sentir. Les gens sont là. Dernièrement, il a plu. L'eau entrait dans les tentes. Jusqu'ici, il n'y a rien. Ils ne font rien pour nous. Si vous vous ancrez, vous allez voir que la communauté africaine est carrément mise à l'écart. Nous sommes au fond, pendant que certains sont bien aménagés. Où nous sommes, c'est à côté des toilettes, des WC, donc toutes les mauvaises odeurs, c'est nous qui les aspirons. Tout ce qui a de mauvais retombe toujours sur nous.
Quand Idar, venu de Homs, s'entend que les Africains envient les Syriens dont on s'occupe plus rapidement, il esquisse un sourire triste. Lui aussi subit les dures conditions de Moria et lui aussi échafaude des plans.
Moi, je suis syrien. Cela fait 2 mois que je suis ici. D'autres sont arrivés il y a 4, 5, 6 ou même 7 mois. Ils sont tous syriens, eux aussi, et ils attendent toujours. Je crains d'ailleurs que la plupart n'attendent pour rien, car il y a cet accord entre l'Union européenne et la Turquie pour les renvoyer en Turquie. La plupart auront perdu leur argent pour rien. Moi, j'ai déposé une demande d'asile. J'attends mon premier entretien. Je pense qu'il faudra plus de 3 mois avant que j'ai un résultat. Vous savez, il y a tellement de gens dans mon cas et si peu de personnes pour s'occuper de nos demandes. Alors pour l'instant, je fais 2 choses. J'attends mon entretien et je cherche un trafiquant pour m'échapper en Europe. Tout le monde dans le camp essaye de partir, c'est bien connu.
Mais normalement, en tant que Syrien, arrivant de Syrie en ce moment, vous devriez obtenir l'asile.
Oui, la plupart des Syriens obtiennent l'asile. Mais la majorité veulent aller en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Belgique. Et on les envoie par exemple en Pologne ou en France. D'autres restent ici en Grèce. C'est pour ça qu'ils veulent partir en Allemagne, sans attendre leur asile. Et même si j'ai l'asile ici, je ne suis pas sûr qu'ils m'enverront dans un bon endroit.
Mais c'est très dangereux avec les trafiquants.
Oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. C'est mieux si je me débrouille tout seul sans passer par les trafiquants. J'ai déjà essayé 2 fois d'acheter un billet et de partir tout seul. Mais la police m'a attrapé. J'essaierai encore. J'espère que ça marchera. Je parie sur mon apparence. Les gens m'ont dit, tu ressembles à un Européen, tu peux partir sans avoir à montrer tes papiers. Tu devrais acheter un billet de bateau et partir. C'est un pari. Ils ne demandent pas toujours les papiers. Ils demandent juste le billet. Mais j'ai essayé 2 fois et la police m'a demandé mes papiers. Elle a vu que j'étais syrien et elle m'a renvoyé. J'ai dit, d'accord.
Mais vous retenterez votre chance.
Oui. Chaque fois que je vais acheter un billet, il y a une dame qui me dit, Idar, ne faites pas ça, vous allez perdre votre argent. Oui, peut-être, mais je ne peux pas rester.
Son rêve, ce serait de pouvoir rentrer en Syrie, que tout cela s'arrête. Sa belle maison et ses oliviers lui manquent, qu'il regarde les photos de son ancienne vie et marche 10 km chaque jour depuis Moria pour descendre en ville, à Mytilène, échapper à cet enfer au moins pour quelques heures. On croise d'ailleurs le long de cette route qui grimpe depuis le port des réfugiés par grappes qui vont et viennent, arpentent les rues sans se mêler aux locaux attablés en terrasse. Une cohabitation qui se passe relativement bien malgré quelques tensions parfois, notamment quand des parents ont cadenassé l'école pour empêcher des enfants de réfugiés d'y entrer. Mais c'est un incident isolé, la solidarité est toujours là. Les Grecs, comme les réfugiés, se sentent impuissants face à cette situation. Si leur île s'est transformée en prison pour Idar et des milliers d'autres, c'est en vertu de cet accord entre l'Union européenne et la Turquie que dénonce le responsable de Médecins sans frontières dans l'île, Akilias Tzernos.
Pour nous, cet accord UE-Turquie est très problématique d'un point de vue humanitaire. Il annule toute notion de réfugiés de guerre. On voit que l'Europe se décharge de ses devoirs sur un pays tiers, la Turquie, qui a ses propres problèmes et n'est même pas membre de l'Union européenne. Au lieu de créer un passage sécurisé, c'est encore plus dangereux de traverser depuis la Turquie. Le résultat, on le voit en Méditerranée avec tous ces gens qui se noient chaque semaine en essayant de passer par une autre voie pour gagner l'Europe. D'un autre côté, si on raisonne en termes de réel politique, on peut dire que c'est efficace parce qu'il y a beaucoup moins de traversées. Mais pour les gens bloqués en Grèce, c'est encore pire. En plus, on ne prend pas en compte ce qui se passe de l'autre côté de la mer. On voit pourtant que la situation empire en Syrie. Alep est en train d'être détruite. On voit des milliers de gens à la frontière turque dans des camps qui sont bombardés. On voit qu'en Irak, cela s'aggrave avec l'offensive sur Mossoul. Cela va créer de nouvelles crises de réfugiés, les gens vont commencer à fuir, et en Afghanistan aussi, ça empire. D'un côté, la situation sécuritaire se détériore dans les pays d'où viennent la majorité des réfugiés. De l'autre, on voit un resserrement des frontières de l'Europe. Ce n'est pas une Europe dont on peut être fier, elle est loin des valeurs que nous, MSF, nous défendons. L'approche des hommes politiques aujourd'hui est à courte vue. Si on ne traite pas les problèmes maintenant de manière humaine et constructive, on va les retrouver dans plusieurs années. C'est très clair pour nous et on se demande bien pourquoi ce n'est pas aussi clair pour ceux qui prennent les décisions.
C'est très grave. Pour l'avenir d'Europe, c'est très très grave. Ce qui se passe ici.
Depuis plus de 10 ans, Effie Latsoudi s'est engagée auprès des réfugiés et migrants à Lesbos.
Je ne peux pas imaginer une Europe sans les droits de l'homme, sans les droits d'asile, et sans solidarité. C'est les valeurs très très importantes pour exister.
Bénévole infatigable, passionnée, elle a fini par convaincre la mairie de lui céder un terrain où elle a monté un centre pour les réfugiés les plus vulnérables. Mais il faut aller plus loin aujourd'hui, pense-t-elle. L'urgence s'est passée, les réfugiés sont là et errent, désœuvrés, dans une île dont ils ne peuvent plus sortir. C'est ainsi que l'association Mosaïque a vu le jour, pour aider à l'intégration culturelle.
C'est très important d'être contre la détention des réfugiés et des conditions humiliées. Et de créer quelque chose avec les réfugiés. C'est une opportunité aussi, ce n'est pas un problème qu'on va trouver des solutions. La solution est là, c'est la solidarité. Et c'est très très important pour notre société.
La solidarité à l'œuvre dans cette maison au calme des rues piétonnes du centre-ville, ouvrant sur une cour plantée d'orangers où l'on se croise, l'on devise. Les migrants viennent y chercher des conseils juridiques, des adresses d'avocats dans une île qui en manque cruellement, suivre des cours d'anglais et de grec, mais en donner aussi de farsi ou d'arabe, afin que les Grecs, c'est le credo des filles, voient les réfugiés comme des personnes qui ont à leur offrir. Locaux et réfugiés se mêlent, échangent, des ateliers se montent, où les migrants retrouvent une activité qui brise l'attente interminable.
Ça c'est la bibliothèque. Avec les livres de leur pays, et aussi des livres grecs et anglais. Et aussi, l'espace où les enfants jouent pendant que les parents prennent les cours.
Les cours de langue.
Des langues. C'est une classe d'anglais. Ici, c'est la classe de grec. Et ça, c'est une grande classe qu'on a pour les activités théâtrales ou le cinéma ou des danses, parce qu'on va faire la danse aussi, grec et aussi de leur pays. Aussi, ils font des cours le matin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes et on a besoin de plus d'espace. Et ça, c'est le chambre pour les psychologues parce qu'on essaye d'avoir le support psychologique aussi et des séances avec les psychologues.
Et là, je regardais les dessins d'enfants, il y a beaucoup de maisons.
Oui. C'est la question d'une maison qui n'existe pas. Ils vont recréer l'idée de la maison.
Là, c'est un bateau. Il y a quand même le soleil, toujours.
Oui, pour les enfants, il y a des...
Qu'est-ce qu'ils font?
C'est un atelier de sacs qu'on fait de gilets de sauvetage.
Comment on cherche à créer à partir de, d'objets de survie, en fait.
Enfin... Oui, c'est ça. Et c'est très symbolique. C'est très lourd aussi.
Donc là, on est dans la cave de cette association, à côté de Johannes, un Érythréen, qui était dessinateur, qui dessinait beaucoup dans son pays et qui est ici depuis 7 mois.
Vous voyez, c'est comme du recyclage.
On voit effectivement des petites boules de mousse, hein, la mousse qui était dans les gilets de sauvetage que les réfugiés avaient sur eux en arrivant ici en Grèce, ces gilets qui maintenant jonchent les plages grecques. À partir de cette mousse, effectivement, ils découpent des petits morceaux pour faire des boules de Noël.
Nous essayons d'envoyer un message. Ce n'est pas juste du papier mâché et de la mousse à l'intérieur. Dedans, il y a une histoire. Quelqu'un a porté ce gilet de sauvetage, qu'il soit vivant ou mort. Vous savez, il y a beaucoup de secrets à l'intérieur. Pour nous, cela a vraiment du sens. Pour nous, les réfugiés, nous qui avons emprunté cette route, nous comprenons. C'est pourquoi quand nous travaillons, nous y mettons beaucoup, beaucoup de soins. Nous le faisons avec beaucoup d'attention.
Une attention aux vivants et aux disparus. Sur les hauteurs de Mytilène, perdues au milieu des oliviers dans un terrain dissimulé au regard, un cimetière a poussé pour accueillir les corps des naufragés qui ne trouvaient plus de place dans celui de la ville. Des tombes fraîchement creusées, de petites plaques de marbre, quelques mots, souvent les mêmes, que nous traduit Christos.
Agnostos andras eton trianda. Homme anonyme, 30 ans d'âge. On peut voir en dessous deux dates. C'est une estimation de à quelle date serait morte la personne.
C'est-à-dire entre le 5 novembre et le 20 novembre 2015.
C'est ça. Ils ont daté plus ou moins en fait la date de sa mort. Certaines sont avec un nom, avec un numéro de tombe, la date de la mort et l'âge. On peut voir Agnostos Andras, Agnostos Koritsi, Agnostos Vrefos, homme anonyme, fille anonyme, garçon anonyme, bébé anonyme. Et on voit aussi un numéro en plus sur chaque plaque de marbre, qui a priori est le numéro d'identification d'ADN en fait, pour pouvoir au cas où si quelqu'un a besoin de et en recherche de quelqu'un, et ben il peut contacter les autorités. Et du coup, avant d'être enterré, chaque personne a pris leur ADN pour pouvoir voilà retrouver les gens si quelqu'un les recherche.
Restaurer la dignité des morts en leur donnant un nom, c'est ce à quoi s'emploie le médecin légiste de l'île Nousias Theodoros. Le regard grave, tirant sur sa cigarette, il se souvient de ses jours de folie l'année dernière, de ses naufrages incessants, de ses dépouilles échouées. Aujourd'hui, il accueille les vivants.
Il y a de nombreuses familles, des gens qui viennent de l'étranger jusqu'ici. Ils sont installés en Europe ou bien ils viennent depuis leur pays d'origine à la recherche d'un proche disparu. Je fais tout ce que je peux pour les aider à retrouver ce parent à partir de photos, d'ADN. C'est important de pouvoir mettre un nom sur toutes ces tombes anonymes.
Combien est-ce que de temps est-ce que cela prend, ce processus d'identification ?
D'abord, je les interroge pour savoir s'ils savent quels vêtements, quelles chaussures la personne disparue portait, quelle taille elle faisait, si elle avait subi une opération chirurgicale, si elle avait un tatouage. Ensuite, on peut commencer à regarder quelques photos. Et si on a le sentiment que là se trouve peut-être ce proche disparu, alors je montre davantage de photos. Mais on y va très progressivement. Et si ce sentiment se confirme, on lance la comparaison ADN avec des laboratoires à Athènes. Beaucoup de gens sont passés par mon bureau pour identifier un proche. Il y a même une femme qui est venue récemment avec des échantillons d'ADN de plusieurs personnes pour accélérer la reconnaissance. Et on se rend compte qu'aujourd'hui encore, on peut arriver à lever l'anonymat et à mettre un nom sur des gens disparus et enterrés ici.
« Sur l'île de Lesbos, on croise tant de tragédies, tant de questions et si peu de réponses, soupire ce Palestinien de Syrie qui préfère ne pas donner son nom. Et Gulfan, le Pakistanais, qui vient de voir sa demande d'asile rejetée et ne comprend pas pourquoi, lui qui avait apporté toutes les preuves des persécutions qu'il a subies. Mais si, il comprend finalement, nous dit-il d'un ton amer. L'Europe ne veut pas de nous, elle ne nous voit pas comme des réfugiés, mais comme des migrants économiques. Les preuves, elle s'en fiche, nos destins aussi. Ioannès, l'Érythréen qui, avec son éternel sourire, lâche que l'on peut tout supporter. La guerre, les difficultés, mais que ne pas savoir où est votre avenir, ça, c'est le pire. Avant d'ajouter qu'il ne croit plus dans les hommes. Et Ethni, la Syrienne, qui s'est retrouvée séparée de sa famille sur les routes de l'exil, elle a gagné Lesbos et appris que par miracle, ses enfants avaient survécu et se trouvaient en Allemagne. Mais elle est bloquée depuis des mois à Lesbos. Elle a frappé à toutes les portes, en vain.
Comme si la guerre ne suffisait pas, il faut que je me retrouve dans une situation pareille. Je suis bloquée ici, loin de mon mari, de mes enfants. Eux, ils sont en Allemagne. Mes 5 enfants sont en Allemagne. Ils apprennent l'allemand, ils vont à l'école. Et mon mari a l'impression que si je ne viens pas les retrouver, c'est parce que j'ai envie de rester ici. J'ai perdu mes enfants et je suis en train de perdre mon mari aussi avec tout cela. Qu'au moins, on me ramène mes enfants. Je demanderai l'asile en Grèce, c'est pas un problème, les gens sont gentils. Mais ils ne me laissent pas rejoindre mes enfants et ils ne me les ramènent pas ici non plus. Il faut que quelque chose se passe, qu'on me dise que dans 3 mois, dans 6 mois, je pourrai aller auprès d'eux. Mais on ne me dit rien. J'en suis à penser que je vais passer de façon clandestine parce que je n'ai pas envie de perdre les miens. Quand je suis venue en Grèce à la recherche de mes enfants, la mère était tranquille. La mère a sans doute eu de la peine pour moi. Oui, la mère a eu de la peine pour moi. Mais les hommes n'en ont pas.
Lesbos, terre de détresse pour les migrants. Vous venez d'écouter le reportage de Marie-Pierre Véraud. Je me tourne d'abord vers vous, Eve Chachahani. Vous êtes allée récemment à Chios, l'une des 5 îles grecques qui reçoivent les migrants. Est-ce que ce reportage fait écho à ce que vous avez vu ?
Tout à fait. Ce reportage fait vraiment écho avec ce que j'ai vu il y a maintenant 6 mois. Lorsque Logistique, une association de défense des migrants et qui fait partie des fondateurs du réseau Migre Europe, a décidé de lancer cette mission sur les îles de la mer Égée. On était curieux de voir et inquiets des conséquences de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Et on avait très très peu d'informations en fait sur ce qui se passe réellement dans ces îles. Un mois et demi après l'entrée en application, je dirais pas en vigueur, mais en application de l'accord. Et donc on a décidé de dépêcher une équipe avec des collègues pour se faire une idée sur place de ce qui se passait dans ces îles, dans ces camps, à Lesbos. Et moi, je suis allée à Chios. Et j'étais préparée à voir des choses dures et choquantes. J'étais préparée parce que quand on ne sait pas ce qui se passe quelque part, c'est jamais très bon signe. Mais ce que j'ai vu a dépassé mes craintes. Et j'ai vraiment vu la fin de l'humanité. Je pense que pour l'Europe, et le dit très bien une des personnes interviewées dans le reportage, ce qui se passe là, c'est très inquiétant pour l'Europe aussi. J'ai vu le mal. J'ai vu l'Europe maltraiter des humains, maintenir des personnes dans des conditions absolument inhumaines. Une île dont les camps, qui étaient des camps fermés, ne sont certes plus fermés à proprement parler comme à Lesbos. La grille est ouverte. Mais l'île de Chios, tout entière, est devenue un camp. C'est une espèce de prison à ciel ouvert où les gens pourrissent et perdent l'espoir.
Une plainte a été déposée d'ailleurs auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, nous avons recueilli une 50aine de mandats de la part de migrants qui étaient dans les camps, que j'ai tous rencontrés personnellement, et qui ne sont pas idiots, qui ont pleinement conscience de la dimension politique de la chose, qui savent qu'à titre d'exemple, pour dissuader leurs compatriotes ou toute personne souhaitant rejoindre l'Europe, on les maltraite, on les humilie et on essaye d'envoyer à l'extérieur un message qui s'apparente quasiment à du terrorisme, hein, en disant on vous maltraite, comme ça vos petits copains ils vont bien voir ce qui va vous arriver si vous venez jusqu'ici. Il n'y avait pas assez de nourriture, Il n'y avait pas assez d'accès aux soins, malgré la présence de quelques médecins de médecins du monde. Il y avait des conditions matérielles honteuses, des hommes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des personnes blessées, traumatisées, et n'importe qui d'ailleurs, dormant par terre, sur des bâches, en pleine chaleur, sous le cagnard. Maintenant, j'ose même pas imaginer ce que ça donne avec le froid et la pluie. Et puis, l'arbitraire, l'opacité, le silence, l'attente et ce désespoir qui rend complètement fou.
Dès la mise en œuvre de l'accord, l'UNICEF s'inquiétait pour les enfants. Vous confirmez leurs craintes aujourd'hui ?
Bien sûr que je confirme ces craintes et j'ai vu de nombreux enfants. Alors à Lesbos, il y a peut-être quelques services de scolarité qui ont été mis en œuvre. Peut-être qu'ils se sont un petit peu développés à Chios grâce à la solidarité internationale, mais bénévoles, hein, bien entendu, et désobéissantes souvent. Mais quand j'y étais, il n'y avait rien du tout. Il y avait de nombreux mineurs isolés, des Afghans notamment, qui étaient au bout du désespoir et de la folie, qui souvent sont désespérés depuis des années.
Vous avez assisté à une tentative de suicide, notamment, d'un de ces jeunes ?
Oui, j'ai eu le malheur d'assister à ça, un jeune Afghan de 16 ans, qui, au comble du désespoir, a tenté de se pendre, enfin, s'est pendu et attendait de se tuer. Heureusement, il a survécu, mais ça tenait à rien. Et c'est ce que dit une des personnes que vous interviewez dans le reportage. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des morts pour qu'on comprenne qu'on met ses vies en danger ? Et c'est une mise en danger par la folie, par le désespoir, par des tendances suicidaires ou par la violence entre les migrants ? Parce que c'est normal, quand on enferme des personnes sur une île, sur un caillou, qu'au bout d'un moment, il y ait de la violence entre eux. C'est pas parce que c'est des sauvages, c'est parce que nous sommes des sauvages et qu'on les pousse à la violence et au désespoir.
Alors, on voit bien ce désarroi hein, que vous décrivez à Chios, comme on a pu le constater à Lesbos. Qu'est-ce qui fait que l'accord s'est grippé ? Qu'est-ce qui fait que l'accord a créé cette situation kafkaïenne, finalement ?
C'était la volonté de l'accord, c'est pas un accord qui s'est grippé, c'était la volonté même de l'accord de dissuader, de repousser et de maltraiter. Hein, c'est pas un accord juridique, il a aucune valeur juridique, il a respecté aucun des processus démocratiques de l'Union européenne, c'est un deal entre les États membres de l'Union européenne et entre la Turquie, pays ô combien démocratique, on le sait bien, hein, et l'objet de ce deal, c'était que l'Europe n'accepte plus d'étrangers, qu'ils soient demandeurs d'asile, migrants, réfugiés, peu importe la catégorie, n'accepte plus d'étrangers illégaux en provenance de la Turquie. Donc tous ceux qui arrivent, on peut les renvoyer, à moins qu'ils n'aient demandé l'asile, et à moins qu'ils n'aient réussi à prouver que la Turquie est pour eux un pays dangereux. C'est impossible à prouver puisqu'on a une administration européenne, grecque avec les grands renforts de l'Europe et de Frontex, qui considère, qui présume que la Turquie est un pays non dangereux pour eux. Et donc, pendant qu'on trie ces personnes, parce que cet accord entre l'Union européenne et la Turquie, c'est un accord de tri, c'est un accord de sélection, c'est un accord de détention, c'est un accord de rétention. Et pendant qu'on trie ces personnes, on les détient, on les enferme, sinon on a peur qu'elles fuient vers le reste du continent européen. Donc c'était prévu dans la manœuvre.
Mais alors, vous disiez, cet accord n'a aucune base juridique. Est-ce qu'il peut être contesté sur le plan légal ?
C'est ce qu'on essaye, mais ce qui est complètement fou, c'est que l'impunité appelle l'impunité. C'est-à-dire que comme cet accord ne respecte aucune des procédures valables de l'Union européenne pour prendre un accord, eh bien, on arrive très difficilement à trouver un juge qui accepte de s'en saisir. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, l'Union européenne a répété la manœuvre avec l'Afghanistan. Ça paraît encore plus aberrant, comme elle fait des accords, comme elle prévoit des accords d'externalisation de la demande d'asile avec des dictatures, avec l'Afghanistan, avec la Libye. Et là encore, ça contourne toutes les voies juridiques et démocratiques de l'Union européenne. C'est des deals, c'est du passe-passe, sauf que c'est avec des humains.
Je me tourne vers notre autre invité, Mathieu Ichoux. Vous êtes chercheur à l'INED au sein de l'unité Migrations internationales et minorités. La méthode que vous avez choisie, c'est la prise de distance. Et vous êtes revenu dans le livre que vous co-dirigez, Au-delà de la crise des migrants, décentrer le regard. Vous êtes revenu sur les chiffres avec la volonté d'objectiver en fait l'ampleur de ce phénomène de migration.
Effectivement, on peut à la fois remettre en question le fait que l'année 2015 et l'année 2016 sont des années complètement sans précédent en termes de flux de migrants. Et à mon avis, il faut aussi, pour rebondir sur ce que disait ma camarade, remettre l'Europe à sa place. C'est-à-dire que c'est un continent qui se targue souvent d'être le continent des droits de l'homme et qui en tire une certaine supériorité morale. Or, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ce ne sont pas les Européens, les pays européens, qui accueillent le plus de réfugiés. C'est d'abord et avant tout, pour la crise syrienne, les pays frontaliers de la Syrie. Comme je suis démographe, mon travers, c'est de citer quelques chiffres. Par exemple, au Liban, environ un Libanais sur 3 ou 4 est un réfugié. En Jordanie, c'est environ 1 sur 10. En Turquie, c'est 1 sur 30. En France, c'est moins de 1 sur 300. Et en comptant non seulement les Syriens, mais tous les réfugiés. Donc on voit bien un certain contraste entre une attitude européenne qui se targue des droits de l'homme et une réalité qui est en fait beaucoup plus inégales.
Oui, parce qu'ils sont dans les pays limitrophes du conflit. Donc Liban, Jordanie, Turquie essentiellement, on parle du million européen, ce qui a agité pas mal de fantasmes en Europe. Ils sont en gros 5-6 millions dans ces pays limitrophes. Et l'Europe, au niveau mondial, accueille une part assez maigre de l'ensemble des personnes qui se déplacent, parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elles ne veulent pas toutes frapper à la porte de l'Europe.
Tout à fait. Et en fait, c'est une sorte de généralité des migrations internationales. Elles sont d'abord ces migrations régionales, c'est-à-dire que la plupart des migrants africains sont en Afrique. L'Europe effectivement a environ déjà l'Europe, c'est pas le continent qui accueille le plus d'immigrés. L'Océanie en particulier avec l'Australie est devant, l'Amérique du Nord également, et la plupart des migrants, des immigrés, c'est-à-dire de personnes qui vivent dans un pays où ils ne sont pas nés, en Europe, sont des Européens.
On entendait même le témoignage, en fait, sur les migrants qui viennent en Europe. Ils ne veulent pas aller dans n'importe quel pays d'Europe, d'ailleurs, dans le reportage, on entendait. L'Allemagne, la Suède, oui, mais pas forcément d'autres pays. Eve Chachahani, vous vouliez commenter ?
Oui, je voulais réagir à ça, parce qu'on parle beaucoup dans les médias du règlement de Dublin, et de ce qui se passe en Europe et qui fait qu'en fait les frontières se referment les unes après les autres.
Alors le règlement de Dublin, c'est de dire que toute personne doit déposer une demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel elle pose le pied, en clair.
Grosso modo, c'est ça. Mais en fait, c'est le corollaire de l'espace Schengen. C'est-à-dire que les Européens se sont dit, bon, on peut circuler librement entre nous dans l'espace européen. Ah oui, mais les autres, quand ils arrivent, quand ils demandent l'asile, eux, il ne faudrait pas qu'ils circulent trop librement dans l'espace européen. Et donc, une fois qu'ils arrivent sur les premières côtes, sur les bords externes de l'Europe, donc en l'occurrence surtout la Grèce et l'Italie, eh ben il faut qu'ils y restent cantonnés parce que nous, on ne veut pas prendre notre part. Et qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fou. En fait, on ne peut pas transvaser les personnes comme si c'était du matériau ou comme si c'était du liquide. La Grèce et l'Italie, elles ne peuvent pas contenir et gérer toutes les personnes qui arrivent sur leur côte. Elles sont face à des choix cornéliens, sinon, ou les laisser crever dans la mer, passez-moi l'expression, ou les sauver au moins, les accueillir sur leur côte. Et dans ce cas-là, elles se retrouvent obligées de porter seules le poids de toutes ces personnes qui arrivent. Donc, comme c'est des pays où, du coup, le traitement des demandes d'asile et les procédures deviennent de plus en plus longues, de plus en plus lourdes, parce que les administrations n'y arrivent pas, eh bien, les personnes essayent d'aller plus vers le nord de l'Europe, où elles ont peut-être déjà de la famille, mais aussi parce que naturellement, elles ne veulent pas rester là où votre demande d'asile sera traitée en 2019. Et alors, c'est normal.
Il y a cette expression de capacité d'accueil que vous avez l'air de contester, Mathieu Hichou, mais on peut quand même concevoir effectivement qu'à certains endroits, par exemple en Grèce, en Italie, on considère qu'on n'a plus la capacité de gérer l'arrivée des réfugiés.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que la solidarité européenne devrait jouer, et ce n'est pas à la Grèce et à l'Italie de gérer la, entre guillemets, crise des migrants pour toute l'Europe. Mais
vous nous dites donc que ce n'est pas une crise des migrants, c'est plutôt une crise de la solidarité ?
Effectivement, et à mon avis, pour revenir sur cette notion de capacité d'accueil, en fait, dans le livre édité chez Cartala, j'ai aussi pris des exemples historiques avec mes collègues, et on se rend compte que il s'agit généralement pas d'un manque de capacité d'accueil. Les pays européens, la France, l'Allemagne, etc., ont tous fait les preuves de leur capacité à accueillir des réfugiés.
Notamment au moment de la guerre d'Espagne.
Au moment de la guerre d'Espagne, Franco, à la fin janvier 1939, prend Barcelone. Un demi-million d'Espagnols traversent la frontière des Pyrénées en 3 semaines. C'est des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Un demi-million de personnes en 3 semaines. Et ça ne veut pas dire que les Espagnols ont été bien accueillis, mais qui se souvient aujourd'hui du fait que les Espagnols sont arrivés en France? Qui va aujourd'hui dire que les réfugiés espagnols ont cassé l'économie française, etc.?
Alors là, on était encore dans le cadre européen. Mmh. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une peur de l'invasion de citoyens non européens.
Alors effectivement, en tout cas...
On a peut-être déjà accueilli aussi des Asiatiques. Hein.
Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a la question de l'islam et de l'islamisme qui sont en toile de fond dans les discours.
Je pense qu'il y a vraiment en toile de fond surtout la question du racisme. Hein. Mm-hmm. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est ni une question de religion, ni une question de culture. C'est une question de racisme. En France, il y a un racisme rampant dont on n'a jamais fait le ménage. Il y a une culture du déni, que ce soit sur la colonisation, que ce soit... sur la collaboration ou que ce soit sur la guerre d'Algérie, c'était il n'y a pas longtemps, le 10 octobre, on n'a pas fait ce vrai travail de mémoire et de balayage un peu, de changer de culture. Il y a un racisme rampant qui en ce moment gagne du terrain et qu'il faut vraiment contrer par la solidarité, mais c'est une question de racisme. Et le racisme, c'est irrationnel, c'est un fantasme. Donc c'est pas du tout une question, et je vous rejoins complètement, de capacité d'accueil ou de questions rationnelles, de chiffres, de qu'est-ce qu'on peut, ah oui mais on peut pas. C'est pas vrai, c'est une peur de l'autre qui est de l'ordre du fantasme.
À l'échelle européenne.
À l'échelle européenne, de la même manière que c'est un fantasme de penser qu'on puisse contenir le mouvement. La migration, c'est le mouvement, c'est le propre de l'humain. De penser qu'on puisse contenir les humains, ou que si on les stocke suffisamment et qu'on les maltraite suffisamment, ils vont disparaître, c'est extrêmement grave. Mais alors, et on en revient à ça. Les termes de saturation qu'on entend et qu'on entend encore, la dernière fois qu'ils ont été employés avec un tel degré, c'était à la conférence d'Évian en 1938. Et la suite, on la connaît tous.
Pour en revenir à ce qui se passe sur l'île grecque de Lesbos, on voit que le renvoi de Syriens vers la Turquie ne se fait pas. Est-ce que c'est un dysfonctionnement dans le dispositif ou est-ce que ça peut être à certains moments un peu de résistance passive de la part des personnes en charge de l'application de ce dispositif?
Alors déjà, des renvois, il y en a eu. Et encore aujourd'hui, il y a des inquiétudes qui sont exprimées, notamment par le Haut Commissariat aux réfugiés, quant au risque de renvoi imminent de Syriens depuis la Grèce vers la Turquie.
Mais il y en a peu par rapport aux chiffres qui avaient été annoncés.
Il y en a peu. Il y en a peu, en effet. Moi, je ne souhaite pas que cet accord UE-Turquie fonctionne bien, puisqu'il est illégitime et honteux. Donc je ne souhaite surtout pas qu'il fonctionne bien. Je pense que dans l'administration grecque, il y a des problèmes en termes de capacité de traitement des dossiers. Est-ce que c'est tant pis ou est-ce que c'est tant mieux? C'est terrible, parce que soit vous êtes renvoyé plus efficacement en Turquie, soit vous croupissez dans le désespoir, dans un camp, de manière inhumaine, sur un caillou. Hein, donc le dilemme, il n'est pas génial. Mais je pense qu'il y a aussi, de la part d'employés grecs, une petite dose de désobéissance passive et de solidarité avec les migrants, parce que il y a dans la société civile et même parmi les employés de l'administration grecque, ce qui n'est pas le cas des employés de Frontex ou du Bureau européen de l'asile, hein, je ne pense pas, mais chez les Grecs, il y a encore ce sentiment de solidarité. Et donc, quand ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent, même si eux-mêmes sont étranglés par la dette. Pour il y a beaucoup en fait de légère désobéissance, de solidarité. C'est une crise de la solidarité, mais vous le montrez dans le reportage. Il y a plein de gens qui font des choses.
D'ailleurs, on voit bien que les commissions d'appel grecques refusent tout renvoi en Turquie. Jusqu'à présent, elles ont un peu bloqué ce système de renvoi vers la Turquie.
Elles ont essayé. Il y a eu des magistrats courageux qui ont essayé et bien mal leur en a pris, puisque après qu'ils ont résisté sur ces renvois vers la Turquie, qu'à cela ne tienne, sur ordre de l'Europe, la Grèce a changé sa législation du jour au lendemain pour remplacer la composition de ses commissions d'appel et pour mettre des magistrats ou des employés de l'administration plus obéissants qui allaient plus valider les procédures. Donc je crains qu'il y ait encore beaucoup de renvois à l'avenir. Là, c'est lent, mais ça risque d'arriver encore.
La Turquie est considérée comme un pays sûr par l'Union européenne. Vous en doutez personnellement ?
Je pense que c'est d'un cynisme sans nom. Tout le monde sait très bien que la Turquie est un pays qui est en train de verser vers le totalitarisme, qui vit une situation extrêmement inquiétante. La société civile, les juges, les avocats, les universitaires, les journalistes, les communautés LGBT ou tout opposant ou toute personne considérée comme non affiliée au régime est en danger. C'est un immense cynisme que de pactiser avec des dictatures dont on sait qu'elles sont des dictatures ou des pays en plein chaos et en pleine guerre comme l'Afghanistan. Tout ça pour éviter d'accueillir des migrants qui ne sont en fait que des frères humains, il faut rappeler ça, enfin, c'est pas des autres.
Quoi. D'autant que le taux de protection offert par la Turquie, à la différence des États de l'Union européenne, est quasiment nul pour les Irakiens, pour les Afghans. Il y a une espèce d'accueil des Syriens, mais pour toutes les autres nationalités qui pourraient prétendre à l'asile en Europe, il y a aucune garantie qu'elles l'obtiennent en Turquie. Et on voit donc bien cette logique qui est de lever les frontières pour empêcher, d'avoir repoussé la frontière jusqu'en Turquie, pour empêcher les migrants d'arriver, au prix donc de ces acrobaties peut-être un peu morales sur le taux de protection dont ils pourraient bénéficier en Turquie. Cette question de la frontière, Mathieu Ichoux, dans votre ouvrage, vous y revenez, vous montrez comment dans l'histoire on s'est rendu compte, ou en tout cas en allant observer d'autres exemples à l'étranger, que ériger ces frontières, ces barrières, ça ne fonctionne pas forcément très bien.
Effectivement, et il y a un certain nombre d'études, en particulier à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais aussi entre l'Europe et les migrations africaines, qui montrent que, en fait, les tentatives politiques de fermeture des frontières, d'une part, ne tarissent pas du tout les sources des flux migratoires, parce que les migrants quittent leur pays pour des raisons qui sont totalement orthogonales aux politiques européennes. Mais surtout, elles ont un certain nombre de conséquences négatives et même contre-productives. La première conséquence constatée, c'est l'augmentation des trafics de l'économie informelle, éventuellement même d'une économie criminelle, qui joue, et on en a vu un peu des conséquences dans le reportage, enfin on en a entendu des exemples dans le reportage.
Le discours, c'est pourtant, on veut lutter contre les trafiquants, contre les passeurs.
Ça ne fonctionne pas. En tout cas, l'histoire et les autres exemples montrent que ça ne fonctionnera pas. La deuxième conséquence, c'est que, et ça aussi, on en a trop entendu dans le reportage, ça fait augmenter la mortalité aux frontières. Ça rend plus difficile le passage des frontières. Et malheureusement, l'Europe a le triste record de la mortalité des migrants aux frontières. 3/4 de tous les migrants qui meurent dans le monde meurent en Méditerranée. Et enfin, la troisième conséquence, ça, à mon avis, très contre-productive et assez peu discutée, c'est que, de manière générale, les migrations sont souvent des phénomènes temporaires. Une partie significative des migrants retournent dans leur pays d'origine. Les réfugiés, une fois la situation stabilisée, beaucoup retournent dans leur pays d'origine. Quand on ferme les frontières, on installe durablement des migrants qui, au départ, ne voulaient pas rester. Parce que ils se disent que s'ils rentrent dans leur pays d'origine, le risque est trop grand si jamais ils voulaient revenir en Europe, si la frontière est quasiment fermée.
Mais quelle est la solution alors ? Il faut juste accueillir tout le monde ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment repenser la frontière et la liberté de circulation, bien évidemment. Et c'est une revendication que porte le Logisti aussi. Et en fait, on est très nombreux à la porter, cette revendication, et à commencer à prendre conscience, contrairement à nos politiciens, et c'est très bien dit dans le reportage, qui sont sourds et aveugles, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut laisser les personnes, parce que c'est le propre de l'homme, à moins de tomber dans la folie collective, il faut laisser les personnes se déplacer librement, choisir le lieu de vie, et ça se régulera très bien tout seul.
Ça se régulera tout seul, c'est ce que vous estimez également, Mathieu Échou?
En tout cas, il y a des études d'économistes tout à fait sérieux et pas connus pour leur radicalité politique qui montrent que l'ouverture des frontières aurait probablement des conséquences économiques très favorables. Et de manière générale, à mon avis, je pense que penser les migrants comme un fardeau à se partager, c'est ça le problème. Si on pensait les migrants plutôt comme des êtres humains, comme des ressources, à mon avis, les politiques seraient meilleures.
Et peut-être qu'on pourrait se penser nous aussi comme de potentiels migrants qu'on a été et qu'on sera peut-être un jour, plutôt que de penser eux et nous, se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment le propre de notre humanité que de un jour migrer, peut-être.
Eh bien, je vous remercie tous les deux, F. Chachahani, avocate spécialiste du droit des étrangers, membre du GISTI, et puis Mathieu Échou, chercheur à l'INED. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Cartala, « Au-delà de la crise des migrants, décentrer le regard ». C'était le magazine de la rédaction, Lesbos, terre de détresse pour les migrants, reportage de Marie-Pierre Véraud, réalisation Yacine Bouzard et Jean-François Braun, et puis merci à Jean Frédérics pour la technique. Vous retrouverez ce magazine sur le site franceculture.fr. L'émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 3 ans.